Vous allez suivre une conférence de l'Agora des Savoirs, une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Du 3 novembre au 8 juin, les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame ? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance ?
Ce mercredi 23 février à 20h30, la France et l'autre, entre universalisme et différentialisme. De l'affaire du voile à celle du niqab, en passant par le débat sur l'identité nationale et l'expulsion des Roms, la question sur la relation à l'autre est posée. René Otaïek, directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre d'études d'Afrique noire de Sciences Po Bordeaux, reviendra sur les valeurs de la République mises à mal par la violence qui a découlé du projet colonial.
Merci infiniment pour votre accueil. Je me réjouis d'être ici ce soir, pouvoir présenter cette réflexion fondée, vous le verrez, sur des recherches personnelles, mais essayant d'envisager les choses de manière plus large. Alors, par les temps qui courent, tout le monde s'en rend compte, alors que les révolutions surgissent un peu partout, sans avoir la politesse de nous prévenir, mieux vaut exercer visiblement le métier d'historien qu'avoir pour profession incertaine celle de politologue, de commentateur ou pire, d'ambassadeur. C'est là sans doute l'un des derniers privilèges de l'historien que de ne jamais être pris au dépourvu par l'actualité. Contrairement à une idée fort répandue, l'histoire n'a jamais la mauvaise idée de se répéter, ce qui nous laisse par définition toujours un temps d'avance pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour dire les choses autrement, si le métier d'historien consiste à restituer aux évidences du présent toute la profondeur de leur passé, s'il s'agit de comprendre comment le temps a modelé les réalités qui nous entourent et qui nous semblent tellement naturelles, la famille, la ville, le paysage, la nation, il y a même des historiens qui s'intéressent à la nourriture, au vin, à l'amour. S'il s'agit enfin, et peut-être surtout, de mesurer à quel point les mots dont nous nous servons pour désigner ces réalités qui nous entourent, mesurer à quel point ces mots ont été forgés, ont été retravaillés par le temps, alors l'actualité, aussi chaotique soit-elle, il faut que mon diaporama fonctionne, sinon les enchaînements ne fonctionnent pas. Alors l'actualité, aussi chaotique soit-elle, n'apporte jamais un démenti au récit de l'historien, mais plutôt une couche supplémentaire, une épaisseur de plus à l'expérience humaine, qui est sa matière première. Ainsi, les événements qui, depuis 2 mois, affectent des pays appelés d'ailleurs depuis une époque assez récente, Tunisie, Égypte, Libye. Ainsi, ces événements ont-ils révélé brutalement non seulement le professionnalisme de notre diplomatie, la réactivité des intéressés de nos élites, mais plus fondamentalement, soyons sérieux, plus fondamentalement encore, une très grande incertitude quant à la véracité et l'efficacité des mots dont nous nous servons pour qualifier les réalités politique et sociale, tunisienne, égyptienne, libyenne. Après la fuite du président à vie, Ben Ali, un célèbre commentateur d'une célèbre station de radio, je ne livrerai aucun nom, soulignait le caractère inédit de ces événements dans un État musulman. La Tunisie, État musulman, curieux qualificatif pour un régime qui se voulait, depuis les heures glorieuses d'Habib Bourguiba, explicitement laïque. En décembre 1989, après la chute sanglante du dictateur roumain Nicolae Ceaușescu, aurait-on eu l'idée de dire de la Roumanie qu'elle était un État athée ? Non, sans aucun doute, et pas seulement parce que le communisme était à lui seul une religion. Faut-il donc que l'islam soit une religion bien particulière pour que l'on qualifie de musulman tous les aspects des sociétés où elle est majoritaire, à moins que l'on ne se trompe ici sur le sens des mots. Si ce n'est musulman, pourquoi pas arabe ? Voilà un qualificatif qui semble autrement plus solide et qui peut s'appliquer sans peine à toute la région. Et voilà les révolutions tunisiennes, égyptiennes, instituées en prémisse d'un radieux printemps arabe. L'expression est aujourd'hui partout. L'expression pourtant n'est pas nouvelle. Jacques-Benoît Méchain l'employait déjà en 1959 pour qualifier l'espérance que le nasserisme soulevait dans tous les pays où l'on pouvait capter et comprendre la voix des Arabes, Sant al-Arabe, la radio officielle du Caire, chargée de porter la parole du président Nasser. J'ai choisi une plus belle icône, peut-être, de cette époque, la cantatrice égyptienne Umm Kalthoum, si représentative de l'époque. L'on sait d'ailleurs que l'idéologie du panarabisme, qui devait libérer tous les peuples arabes, soit de la tutelle de l'Empire ottoman, soit des puissances coloniales européennes, cette idéologie était née en Syrie, avec pour père fondateur, pardon, des intellectuels issus des familles chrétiennes du pays. Alors, arabe, la Syrie ? Arabe, la Tunisie, l'Égypte, la Libye ? Mais la question se pose alors, qu'est-ce que c'est qu'être arabe ? Si c'est parler la langue arabe ou l'un de ses dialectes, alors un nombre non négligeable de citoyens des pays membres de la Ligue arabe ne sont pas des Arabes, dans la mesure où l'arabe n'est pas leur langue maternelle. Les berbérophones, on le sait, je n'insiste pas, sont nombreux en Libye, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie. Les kurdophones sont nombreux en Irak, sont nombreux en Syrie, ainsi que dans deux pays que personne ne penserait qualifier d'arabes, la Turquie et l'Iran. Que dire alors du Soudan, où les arabophones ne vont devenir majoritaires dans quelques mois qu'à la faveur de la sécession annoncée des provinces du Sud. Alors, si être arabe, ce n'est pas nécessairement parler l'arabe ou ne parler cette langue depuis la naissance. Si être arabe, c'est d'une autre manière être arabe de souche ou arabe d'ethnie, comme on voudra, c'est-à-dire se reconnaître dans une communauté de destin forgée par une parenté originelle, plus ou moins mythique. Qui peut aujourd'hui prétendre, comme le faisait il y a encore deux siècles un certain nombre de lettrés, qui peut prétendre faire remonter ses origines à l'une ou l'autre des tribus arabes qui, au 7e et 8e siècle de notre ère, ont quitté la péninsule arabique. Les seuls aujourd'hui à pouvoir soutenir cette prétention sont ceux qui, à l'instar du roi du Maroc, prétendent descendre du prophète Mohammed, mort en 632. Sur cette parenté, sur cette somptueuse généalogie des rois du Maroc, il n'y a d'ailleurs guère de doute à nourrir, tant les registres des descendants du prophète ont été étroitement, scrupuleusement tenus, au moins depuis le XIIIe siècle, hein, au moins depuis qu'existent des syndics des descendants du prophète chargés de recenser ces descendants. Donc, s'il y a une imposture, eh bien, elle est tout de même assez ancienne, XIIIe siècle. Alors, arabe de souche, bon, ce n'est ni plus ni moins absurde que français de souche. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi, jusqu'au XIXe siècle, un habitant du Caire, un habitant de Damas ou de Bagdad, se serait senti insulté si on l'avait qualifié d'arabe ? Mot qu'il aurait aussi mal pris que vous et moi si l'on nous traitait de plouc ou de pecno. Alors, oui, les mots changent de sens, les mots se modifient avec le temps. Arabe était, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, le nom que des intellectuels de langue arabe, des hommes et des femmes de culture arabe, à l'image de ce jeune homme politique égyptien, Mustafa Kamel Pacha, qui fut l'un des leaders du Parti nationaliste égyptien, c'est le nom arabe que ces hommes et ces femmes, sur le modèle sémantique des nationalismes européens, et en réaction au nationalisme turc qui agitait alors l'Empire ottoman, leur maison commune, le nom que ces hommes et ces femmes ont donné au projet d'émancipation collective des sujets arabophones de l'Empire. Un projet dont les révolutions actuelles sont en train de liquider les tout derniers héritages. Les mots ont donc une histoire et leur signification ne cesse de s'enrichir, de s'altérer, de se modifier. Mais les mots ont également du poids. Ils pèsent parfois très lourd, plus lourd que des choses, ou plus exactement, et c'est le cas qui nous occupe ce soir, les mots deviennent des choses. Ils sont, à proprement parler, réifiés. Un seul exemple. Les descendants de ceux que, dans la France des années 1960, on nommait, on qualifiait avec plus ou moins d'aménité, d'arabes, sont aujourd'hui, dans le discours public, devenus des musulmans. Il n'est donc pas inutile, au-delà même de la curiosité bienveillante et désintéressée que suscite dans notre pays l'étude de l'histoire et que vous manifestez ce soir par votre présence amicale, il n'est pas inutile d'examiner dans le détail ces mots qui ont envahi le discours public. Examiner en détail ces mots, non pas pour s'entendre sur les mots, l'histoire, l'historien n'ont aucune leçon de concorde à donner à quiconque. Non pas afin de s'entendre sur les mots, mais afin d'entendre ces mots, de les entendre dans toute la richesse, dans toutes les contradictions également de leur passé. Il se trouve, et ce n'est pas un hasard, que ces deux mots, arabe et musulman, dont nous ne savons pas très bien quoi faire objectivement, doit-on parler de monde arabe, de monde musulman, de monde arabo-musulman ? Les commentateurs ne se mettent pas d'accord. Ces deux mots nous sont venus d'une civilisation ancienne, une civilisation millénaire qui a toujours aimé jouer avec les mots, qui a toujours aimé jouer avec les mots et avec leurs multiples sens, les tournant et les retournant au gré de sa propre histoire. Arabes et musulmans sont deux mots que nous avons hérités de la civilisation de l'islam, de la civilisation islamique. Bien sûr, il y a d'autres mots que nous tenons de l'islam. Abricot, alcool, amiral. Vous comprendrez que je ne pourrais pas parler de tout ce soir. Alors, ces deux mots. Deux mots qui nous semblent aujourd'hui embarrassants, et qu'ils sont embarrassants parce qu'ils entendent réduire à une réalité fixe, à une réalité intemporelle, à une réalité identitaire, le foisonnement d'une histoire qui est née, au contraire, sous le signe de la multiplicité et qui a grandi sous le signe de la bigarrure. Je vais tenter maintenant de m'en expliquer. Petit retour en arrière. Plaçons-nous au 7e et 8e siècle de notre ère. La civilisation de l'islam est le fruit des conquêtes qui se déroulèrent au 7e et 8e siècle de notre ère, qui virent quelques dizaines de milliers de combattants, pas plus, c'est peu, quelques dizaines de milliers de combattants partis de la péninsule arabique, qui vit ces combattants se tailler un empire sans équivalent dans l'histoire de l'Ancien Monde. Sans équivalent en cela que cet empire, pour la première fois depuis les éphémères conquêtes d'Alexandre le Grand, pour la première fois, un empire réunissait des pays situés de part et d'autre d'une vieille frontière, une frontière qui est restée active tout au long de l'Antiquité, une vieille frontière qui passait, grosso modo, au niveau de la vallée de l'Euphrate et qui séparait tout au long de l'Antiquité le monde grec puis gréco-romain d'une part, le monde perse d'autre part. Cette frontière, Alexandre le Grand avait rêvé de la transgresser, rêvant d'unifier la Grèce, la Perse et même l'Inde. Eh bien, les Arabes, qui vouaient, on le sait rarement, une admiration sans borne pour Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui est l'homme aux deux cornes, comme le désigne le Coran, qui est un personnage du Coran. Les Arabes qui vouaient une admiration sans borne pour Alexandre le Grand ont réussi là où leur héros avait échoué. Alexandre le Grand a donné naissance à de nombreuses épopées en langue arabe et en langue persane, épopées qui ont été de nombreuses fois illustrées à l'image ici de cette très belle miniature du XVIe siècle. Alors, les Arabes ont réussi là où Alexandre a échoué, en soumettant à leurs armes et à leurs lois une grande partie du monde romain. Je vais revenir à la carte, c'est moins joli, mais tout de même c'est plus utile. En réussissant à soumettre à leurs armes une grande partie du monde romain, la Syrie, l'Égypte et plus loin encore l'Afrique du Nord jusqu'à l'Espagne, une grande partie du monde romain, mais également la totalité du monde perse, de l'Irak et de l'Iran jusqu'à l'Asie centrale, et même déjà la vallée de l'Indus, déjà en attendant les conquêtes turques qui, 3 à 4 siècles plus tard, intégreront progressivement l'ensemble du sous-continent indien au monde islamique. Alors, au sein de cet immense empire qui, un siècle à peine donc, après la mort du prophète Mohammed, cet immense empire qui s'étendait déjà des rives de l'Atlantique à la steppe d'Asie centrale, au sein de cet immense empire, les conquérants ne forment qu'une infime minorité. Une infime minorité de la population, et ils entendent bien le rester. Il est rare, on les comprend, il est rare dans l'histoire qu'une aristocratie renonce à ses privilèges sans y avoir été forcée. Partie d'Arabie, pour s'établir à la faveur des conquêtes dans toutes les provinces de l'Empire, ces hommes se définissent comme une aristocratie, comme une aristocratie de combattants. Ces hommes ne se désignent ni comme des Arabes, ni comme des musulmans. Bon, parmi les beaux vestiges hein, de cette première aristocratie arabe, je ne résiste pas à vous montrer ces fresques des palais qu'on appelle les châteaux du désert, hein, ces résidences princières de la steppe syrienne et jordanienne. Ces hommes se définissaient donc comme une aristocratie de combattants, ni comme des Arabes, ni comme des musulmans. Le mot par lequel ils se désignaient eux-mêmes, le premier mot par lequel ils se désignaient, tel du moins que nous le laissent entendre en particulier les chroniques monastiques en langue syriaque, c'est le nom d'exilé. En arabe, muhajiroun, ceux qui se sont exilés, ceux qui, à l'image de leur prophète, ont pris le chemin de l'exil, ont accompli leur hégir afin d'étendre la loi de l'islam. Alors, étendre la loi de l'islam, cela veut dire, à cette époque, soumettre des peuples entiers, les Perses, les Romains, qui sont vus comme un peuple, les Perses, les Romains, plus tard les Berbères, les Turcs, les soumettre donc à l'empire des Arabes, mais certainement pas, contrairement à une idée bien établie, certainement pas les convertir à la religion musulmane. En effet, à cette époque, nous sommes aux alentours de l'an 700, l'islam, en tant que religion, l'islam est exclusivement la religion des Arabes. Elle est, en quelque sorte, leur fierté nationale, une fierté qui s'exprime, bien évidemment, dans le livre, hein, la forme livresque qu'ils entendent donner à la révélation religieuse transmise par leur prophète. Vous avez ici sous les yeux, sans doute, une page de l'un des Corans les plus anciens, Coran en caractère hijazi ou manque par rapport à une écriture arabe complète bon nombre de signes de lecture, ce qui en rend d'ailleurs la lecture très incertaine. C'est une page que l'on date difficilement de la fin du 7e siècle, peut-être du début du 8e siècle. Donc, autour de l'année 700, l'islam n'est encore que la religion, n'est exclusivement que la religion des Arabes, leur fierté nationale. Elle est surtout, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, la condition même de leur privilège, tant sur le plan social que sur le plan fiscal. À une époque où les signes de distinction, les éléments de distinction de cette aristocratie arabe sont en train de s'estomper à mesure que les anciennes élites des pays romains et perses, les anciennes élites de langue grecque ou persane, adoptent à leur tour la langue arabe. Alors, si l'islam est pour les Arabes le meilleur garant de leurs privilèges, c'est que, à ce titre, parce qu'ils sont musulmans et les seuls musulmans de l'Empire, les Arabes ne paient qu'un impôt léger au trésor public. Un impôt que l'on conservait hein, dans ce petit édicule établi dans la cour des grandes mosquées, ce trésor public, ici c'est le plus bel exemple, celui construit dans la grande mosquée de Damas au début du 8e siècle, décoré, comme vous le voyez, de somptueuses mosaïques d'origine byzantine. Et oui, à cette époque, j'y reviendrai, hein, cet art islamique utilise aussi bien la représentation figurée, utilise également des matériaux qui sont avant tout des matériaux impériaux, hein, comme cette mosaïque si intimement liée à l'art et à la culture byzantine. Alors, revenons à cette histoire d'impôts, hein, puisque nous avons sous les yeux le trésor public, le Beit el Mal. Eh bien, les Arabes ne paient alors qu'un impôt léger au trésor public. Ce sont, au contraire, leurs innombrables sujets non musulmans, de confession chrétienne, ou juive, ou sabéenne, ou encore zoroastrienne, les deux dernières ayant passé largement par pertes et profits au cours du Moyen-Âge, ce sont leurs sujets innombrables non musulmans qui, comme par le passé, sous la tutelle de Rome ou de la Perse, payent l'essentiel, supporte l'essentiel du fardeau fiscal. À cette époque, nous sommes donc toujours au début du 8e siècle, le seul moyen de devenir musulman, c'est-à-dire entre autres choses d'accéder à l'élite sociale, à l'élite de l'Empire, le seul moyen de devenir musulman, c'est donc de devenir un arabe. Ce qu'il était possible de faire à certaines conditions, en particulier en se mettant au service d'une famille ou d'une tribu arabe, en devenant le client, avec un statut juridique spécifique de client, de maoula, de dépendant, avec l'espoir qu'avec le temps, cette situation subalterne s'efface pour ses propres descendants. Alors malgré ces entraves, malgré la volonté de l'aristocratie arabe de réserver pour elle ce privilège qu'était la pratique de la religion musulmane, les conversions à la religion musulmane se sont multipliées. Les conversions à la religion de l'élite de l'Empire se sont multipliées malgré les entraves. Ces conversions, elles sont rapides dans certaines régions de l'Empire, en particulier en Irak, en Iran. Elles sont rapides également au Maghreb, malgré quelques résistances. Elles sont rapides en Espagne. Elles sont plus lentes dans d'autres régions, comme la Syrie et surtout comme l'Égypte, où la population va rester plus longtemps majoritairement non musulmane, en l'occurrence chrétienne. Les chrétiens restent majoritaires en Égypte au moins jusqu'à la fin du XIIIe siècle, autrement dit plus de 6 siècles après la conquête du pays par les Arabes. Revenons donc dans les années 700. L'essor des conversions à l'islam, vous le comprenez, menace l'équilibre des finances publiques, menace plus encore, plus fondamentalement, l'ordre social et la domination de cette aristocratie arabe née de la conquête, issue des conquérants de l'Empire. Comme l'écrivait un gouverneur d'une lointaine province orientale située à l'est de l'Iran, qui l'écrivait à l'empereur, « Maintenant que tout un chacun devient un arabe, qui va payer l'impôt ?» Cri de ce gouverneur, « Qui va donc payer l'impôt ?» Maintenant que tout un chacun devient un arabe. La situation est alors insurrectionnelle et elle aboutit en effet, à la fin des années 740, à une véritable révolution. Alors la société qui émerge par la suite, à partir de la seconde moitié du 8e siècle, cette société, elle est radicalement nouvelle. Et cette société, elle va marquer de son empreinte toute l'histoire des pays qui avaient été soumis et unifiés par l'Empire des Arabes. Dans cette société, les adeptes de la religion des Arabes deviennent peu à peu majoritaires, en particulier dans les villes. Et c'est d'ailleurs à cette époque, et à cette époque seulement, nous sommes plus d'un siècle après la conquête, que l'usage du mot musulman, stricto sensu les adeptes de la religion musulmane, que l'usage de ce mot se diffuse massivement dans les textes, dans la littérature, dans également le texte des inscriptions. Les habitants de l'Empire, en particulier les habitants des villes, deviennent donc de plus en plus souvent musulmans. L'élite sociale se met à parler l'arabe, alors même que 2-3 générations plus tôt, elle parlait le grec ou le persan. L'élite sociale parle l'arabe, la langue des anciens conquérants, mais la référence à la conquête s'estompe. L'appartenance aux tribus arabes qui avaient fait cette conquête, qui s'était établie dans l'Empire, ne garantit plus pour leurs descendants ni statut social, ni revenu. Dès lors, dans cette société nouvelle, tout semble plus simple. Tout semble plus simple, la religion musulmane semble devenir la principale norme sociale. D'ailleurs, la dynastie régnante et ses rivales se réclament toutes de la religion musulmane, prétendent toutes avoir une parenté avec le prophète de l'islam. D'ailleurs également, le droit qui se développe à cette époque en langue arabe s'inspire directement de la parole de Dieu et de la parole de son prophète. La religion musulmane devient la principale norme de la société. L'Empire des Arabes est devenu un empire musulman, ou si l'on préfère, un empire arabo-musulman. Fermez le banc, fin de l'histoire. Et oui, du moins, est-ce ainsi que l'histoire de l'islam a été le plus souvent racontée. Le plus souvent racontée, le plus souvent ramenée, comme je viens de le faire, à la matrice initiale de ces 2 premiers siècles, qui auraient tout inventé, tout fixé pour 1000 ans. Une histoire ramenée à l'emploi presque obsessionnel de ces 2 qualificatifs, arabe et musulman, qui donc épuiseraient à eux seuls toutes les significations de son histoire. Une histoire enfin ramenée, enfin et surtout, à la référence religieuse, qui donc recouvrirait tous les autres aspects de la vie sociale. Il y a bien des raisons qui expliquent pourquoi c'est ce récit-là de l'histoire de l'islam qui l'a emporté sur tous les autres. Des raisons assez récentes, des raisons qui se logent dans les débats intellectuels et les enjeux politiques de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. C'est-à-dire à ce moment crucial, hein, les années 1860-70, 1930 à peu près, ce moment crucial au cours duquel l'on a repensé l'histoire de l'islam, l'on a tenté de décrire aussi cette histoire de l'islam, l'époque où l'orientalisme européen tente de penser l'histoire de l'islam, l'orientalisme européen, enfin non, pas celui-là, excusez-moi, pas l'orientalisme langoureux des peintres, non, non, l'orientalisme plus austère des savants, hein, à l'image du grand Louis Massignon, savant fasciné par la langue arabe et par la question des origines de l'islam. Vous préférez que je revienne peut-être à la précédente? Non. On n'a pas vraiment vu, c'est vrai, alors que quand même Jean-Léon Gérôme mérite qu'on s'y arrête. Période cruciale, disais-je, hein, à laquelle, au cours de laquelle l'histoire de l'islam est donc repensée, non seulement en Europe par des savants orientalistes, mais également, à la même époque, et dans des termes très proches, par des intellectuels arabes, qui voyaient précisément dans la religion musulmane, nous sommes à la fin du XIXe siècle, le principal patrimoine collectif des Arabes. Allons plus loin, le patrimoine inaliénable des Arabes, à une époque, la fin du XIXe siècle, où ces intellectuels arabes tentent de lutter à la fois contre le nationalisme turc et contre les premières formes de l'impérialisme européen. C'est donc à ce moment-là, hein, dans ce moment intellectuel-là, il y a tout au plus un siècle, que dans la perception collective, et dans la perception collective des deux côtés de la Méditerranée, c'est ça qui est sans doute le plus intéressant, c'est à ce moment-là que la civilisation de l'islam est donc devenue inextricablement arabo-musulmane. Pourtant, cela ne tient pas. Cela ne tient pas si l'on veut rendre compte de son passé dans sa totalité. Peut-on sérieusement, par exemple, qualifier d'arabo-musulmane l'extraordinaire floraison littéraire qui, à partir du milieu du 8e siècle, va acclimater dans la langue arabe le patrimoine de la littérature indo-persane, à l'image des célèbres fables animalières de Kalila et Dimna, hein, qui firent l'objet aussi de nombreuses illustrations, celles-ci étant tardives, hein, par rapport à l'époque où ces fables sont traduites du persan vers l'arabe par Ibn al-Mukaffa, donc au milieu du 8e siècle. Arabo-musulmane, la poésie bachique des poètes de Bagdad qui célèbrent le vin et qui célèbrent l'amour des jeunes garçons à la taille de roseaux. Arabo-musulmane, la production scientifique qui, à partir des apports grecs et indiens, fait progresser de manière décisive les mathématiques, l'optique, la chirurgie. Arabo-musulmane, cette nouvelle science géographique qui, sur la base des principes de l'astronomie grecque, construit une représentation plus réaliste du monde. Oui, oui, plus réaliste, à condition de savoir que le nord est en bas et le sud est en haut sur cette map monde. Hein. Remettez-la à l'endroit et vous verrez que nous avons une image du monde finalement assez précise par rapport à ce qu'était le monde connu au milieu du XIIe siècle, à l'époque d'Idrissi, hein, qui travaillait à Palerme pour le roi normand de Sicile. Arabo-musulmane, enfin, cette production artistique d'une sophistication sans équivalent au Moyen-Âge, sauf peut-être en Chine, et qui, contrairement à une légende tenace, n'a jamais dédaigné l'usage de l'image et de la représentation figurée. Eh bien, à la même époque, les habitants chrétiens de l'Europe, des pays d'Europe, avaient bien compris et ne dédaignaient pas ces objets. Ils les recherchaient même sans scrupule d'aucune sorte pour orner ce qu'eux-mêmes avaient de plus précieux, de plus sacré, sans se soucier de savoir si ces objets étaient, oui ou non, arabo-musulmans. Allez, deux exemples, parmi les plus beaux, sans aucun doute. À l'abbaye de Saint-Josse, nous sommes, contrairement à ce que cette image semble indiquer, dans le Nord-Pas-de-Calais. À l'abbaye de Saint-Josse, les reliques de Saint-Josse furent conservées 8 siècles durant, jusque dans les années 1920, dans cette magnifique étoffe de soie qui avait été initialement brodée au Xe siècle pour un chef turc dans l'est de l'Iran. Deuxième exemple, qui concerne cette fois-ci Venise et l'évêque de Venise, qui, depuis le XIIe siècle, s'adossait dans la cathédrale de la ville à cette stèle couverte pourtant de motifs végétaux et de versets du Coran. Une stèle, un siège, une chaire dont on disait pourtant qu'elle avait appartenu à l'apôtre Saint-Pierre en personne. Alors, je pourrais continuer et prolonger la liste jusqu'à l'absurde. Mais au-delà, hein, je pourrais continuer à tourner en dérision cette, encore une fois, cette appellation arabo-musulmane si, si restrictive. Mais il y a plus important. Il y a plus important. Parmi ces artistes, ces poètes, ces savants qui ont illustré la civilisation de l'islam, bon nombre appartenaient à des familles qui, quelques générations plus tôt, étaient de culture grecque ou persane. Si ces hommes ont adopté la langue arabe, c'est parce qu'elle était devenue, dans le cadre de cet immense empire, un véhicule universel, à la manière du latin dans l'Europe médiévale, et peut-être même plus encore, plus exactement, à la manière de l'anglais dans notre monde contemporain. De Cordoue à Bagdad et jusqu'en Asie centrale, s'exprimer en arabe était alors le meilleur moyen d'être compris de ses interlocuteurs ou de son public éventuel. Et dans tout l'océan Indien, et même au-delà, jusque sur les côtes de la Chine, dans le port de Canton, par exemple, la langue arabe était alors comprise plus ou moins bien par la plupart des marchands. Cette langue véhicule alors toute une culture avec ses prestiges matériels et ses prestiges spirituels, parmi lesquels, c'est évident, l'écriture arabe et la religion musulmane. La religion musulmane est bien souvent restée, comme sur les côtes de l'Indonésie ou de l'Afrique orientale, elle est restée quand ce vaste système monde qu'était l'islam, né du premier empire arabe, quand ce vaste système a commencé à refluer. La religion est restée, l'écriture arabe également. L'écriture, et je dis bien l'écriture et non en la distinguant de la langue, l'écriture arabe, véritable signe iconique de la civilisation islamique, que l'on retrouve dans des pays où l'on ne parle pas l'arabe, où elle sert à noter des langues qui pourtant relèvent de systèmes linguistiques radicalement différents. C'est le cas par exemple du swahili, cette langue bantoue que l'on parle sur les côtes du Kenya et de la Tanzanie actuelle et que l'on écrit et que l'on écrivait depuis le Moyen-Âge à l'aide d'un alphabet arabe légèrement adapté. C'est vrai également du malais que l'on parle en Malaisie, mais également sur les côtes de Sumatra et de Bornéo. Pourtant, personne aujourd'hui ne se risquerait à affirmer que l'Indonésie, premier pays au monde par le nombre de ses citoyens musulmans, est un pays de culture arabo-musulmane. Ici, le paradoxe atteint l'absurde. Alors, ce qui, des siècles durant, a caractérisé la civilisation de l'islam, bien davantage qu'une unité culturelle arrimée à la langue arabe et à la religion musulmane, c'est davantage une pluralité fondamentale. Pluralité, d'abord pluralité des religions représentées parmi les sujets de l'Empire, pluralité dont témoignent des communautés non musulmanes, chrétiennes et juives en particulier, qui sont restées très importantes très tard dans l'histoire du monde islamique, jusqu'au XXe siècle, jusqu'au bouleversement du XXe siècle. Pluralité dont témoignent également à leur manière les nombreuses communautés hétérodoxes qui ont prospéré sur les marges de la religion officielle. Je pense aux Druzes du Liban, aux Alaouites moins connus en Syrie, ou moins connus et pourtant autrement plus nombreux et plus importants, aux Alévis en Anatolie. Pluralité des religions, pluralité des confessions, pluralité également des langues et des cultures intégrées à l'héritage de l'islam, dont témoigne tout au long du Moyen-Âge, la naissance ou la renaissance de langues de culture distinctes de la langue arabe, mais notées dans l'écriture arabe. C'est le cas du persan, qui connaît une véritable renaissance à partir du XIe siècle, mais également du turc, qui accède à la dignité de langue de culture, de langue littéraire, à partir du XIVe et surtout du XVe siècle, de langues qui seront transcrites dans l'alphabet arabe. Alors ce constat du formidable cosmopolitisme de la civilisation islamique est donc un démenti flagrant à la double réduction identitaire arabe et musulmane qui, sous l'effet des aspirations nationalistes, par ailleurs très légitimes à la fin du XIXe siècle, qui, sous l'effet de ces aspirations, a profondément modifié l'image que l'on s'est fait de la civilisation de l'islam depuis donc la fin du XIXe siècle. À cette époque, à l'heure où l'on dénonçait en Europe l'Empire d'Autriche-Hongrie comme une prison des peuples, son équivalent oriental, l'Empire ottoman, n'avait pas meilleure presse à Damas ou au Caire. Le cosmopolitisme, rejeté hier comme une aliénation, comme une relique du passé, le cosmopolitisme est redevenu aujourd'hui, a recouvré pourtant aujourd'hui une valeur positive. Faut-il pour autant, à notre tour, céder aux sirènes de la modernité, de cette modernité qui proclame aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, la beauté du métissage, la richesse de la diversité? Les historiens ont toujours une tendance, je ne sais pas si elle est coupable ou si elle est simplement inévitable, les historiens ont toujours une tendance à regarder le passé en fonction des préoccupations et des considérations du présent. Mais dans le cas qui nous occupe ce soir, céder à cette facilité, céder à cette facilité qui consisterait à simplement célébrer la richesse de la diversité, la beauté du métissage, céder à cette facilité ne serait pas seulement une faute professionnelle ou une complaisance coupable. Ce serait manquer, me semble-t-il, ce qui, des siècles durant, plus encore que le cosmopolitisme, ce qui, des siècles durant, a fait la spécificité de la civilisation de l'islam. Ce que l'on pourrait appeler, c'est peut-être un peu pédant, le gouvernement des différences, la négociation des identités. Ou pour le dire de manière peut-être plus concrète, l'intégration au cœur du jeu social et politique, l'intégration de cet écart, à la fois ou au choix linguistique, ethnique, religieux, ou les trois à la fois, de cet écart qui fait que l'on appartient à une minorité au milieu de la majorité. Je vais tenter de m'en expliquer, de cette négociation des identités, en vous racontant brièvement une histoire. Nous sommes maintenant à Delhi. Delhi, capitale de l'Inde islamique, au début des années 1340. Le sultan régnant, qui est le fils du sultan Tughluq, inhumé dans ce magnifique mausolée. Le sultan s'appelle Mohammad Shah ibn Tughluq. Il porte donc un nom à la fois arabe, persan et turc. Il est le fils d'un officier turc qui est parvenu sur le trône. Il règne alors sur l'un des états les plus puissants et les plus riches, surtout, du monde islamique. L'armée du sultan de Delhi est constituée de cavaliers turcs et afghans. Son administration est peuplée de secrétaires persans. Ses sujets sont, pour l'essentiel, constitués de la population majoritairement hindouiste de l'Inde, mais également d'un nombre croissant de néo-musulmans convertis de fraîche date à l'islam. Arrive alors à sa cour, c'est une histoire vraie, un négociant marocain, endetté, un certain Ibn Battuta, qu'à cette époque, personne ne connaît. Ibn Battuta qui vient donc jusqu'en Inde et qui vient à Delhi négocier auprès du sultan, lui qui est très endetté, négocier le seul capital qui lui reste à cette date, il a tout cramé, son seul capital, à savoir sa maîtrise de la langue arabe. Cette maîtrise de la langue arabe qui, en effet, va lui ouvrir dans ce pays neuf, dans ce pays en construction qu'est l'Inde islamique, des fonctions prestigieuses, en l'occurrence celle de juge. Ce capital-là, maîtrise de la langue arabe, n'aurait pas pesé lourd dans son pays natal, le Maroc, où ses compétences n'auraient pas suffi à faire la différence. Et d'ailleurs, à son retour au Maroc, Ibn Battuta fera justement rédiger le célèbre récit de son périple, célèbre récit qui devait faire de lui le plus grand et plus célèbre voyageur du monde, précisément pour y puiser de quoi faire valoir, à la cour du sultan de Fès, cette fois-ci, une autre sorte de notoriété. De fait, ce royaume de Delhi, où le pouvoir parle turc, où la cour s'exprime en persan, où l'arabe jouit donc encore d'un prestige intact, ce royaume est au XIVe siècle un véritable pays de cocagne, une sorte d'Amérique médiévale pour les hommes venus des vieux pays d'islam, comme plus tard de la vieille Europe. Les compétences qui sont reconnues à ces hommes venus des vieux pays d'islam qui se rendent en Inde, les compétences qui leur sont reconnues, les talents qu'on leur prête, les fonctions qu'on leur confie, sont étroitement liées à leurs origines, sont liées à l'identité à la fois ethnique et linguistique, dans laquelle on les range. Ibn Battuta est marocain, c'est donc un arabe, donc il pourra être juge. Quelle que soit, par ailleurs, la réalité et la diversité des sentiments d'appartenance des individus. Ce que met en lumière l'histoire de l'Inde islamique, avec d'ailleurs une netteté, hein, une grosseur de traits qui est sans doute le propre de toute société nouvelle. Ce que cette histoire met en lumière, c'est un fonctionnement social où le pouvoir politique, le souverain, organise une distribution des rôles indexée sur les origines, indexée sur les compétences, les vertus, les défauts prêtés non pas aux individus, mais aux peuples dont ils sont issus, des rôles sociaux indexés sur les compétences, les vertus, les défauts prêtés de manière presque proverbiale à chacun des peuples représentés. Les Turcs font de bons soldats, les Persans font d'excellents administrateurs, les Arabes font des juges pointilleux. L'important est qu'ils se distinguent d'une manière ou d'une autre de la masse des sujets. C'est le cas. La masse des sujets ne parle pas l'arabe, la masse des sujets n'est pas musulmane. Alors cette histoire que j'ai choisi de situer dans un contexte exotique de l'Inde islamique, j'aurais pu la raconter pourtant en la situant à une autre date, en un autre lieu plus central dans l'histoire du monde islamique. J'aurais pu la raconter à Marrakech, par exemple, à la fin du XIe siècle, quand la dynastie des Almoravides, d'origine berbère, s'appuyait sur une garde de Catalans, tout ce qu'il y a de plus chrétien, pour lever les impôts sur ces sujets musulmans. J'aurais pu raconter cette histoire au Caire, à la même époque, fin du XIe siècle, où le souverain de confession chiite s'appuyait sur des troupes berbères, africaines et plus tard même arméniennes, ainsi que sur des ministres d'origine juive, pour gouverner des sujets qui étaient, dans leur écrasante majorité, soit des chrétiens, soit des musulmans sunnites. Troisième exemple, j'aurais pu raconter cette histoire à Ispahan, en Iran, 6 siècles plus tard, quand le souverain, de confession chiite, lui aussi, mais cette fois-ci chiite comme une part croissante de ses sujets, quand le souverain s'appuyait sur des troupes géorgiennes fraîchement converties à l'islam pour dominer ses sujets, des troupes géorgiennes dont il ne parvenait d'ailleurs à payer les soldes qu'en taxant les grands marchands de soie établis à sa cour, des marchands arméniens, tous chrétiens. Alors, ce que ces histoires racontent, c'est en somme la même chose. À savoir que pendant des siècles, le jeu social dans les pays d'islam reposait sur l'affirmation des différences, sur la mise en compétition des identités particulières par lesquelles des individus ou des groupes d'hommes cherchaient à se démarquer de la majorité. Et si l'Orient islamique, à l'orée du XXe siècle, était encore une étonnante mosaïque de minorités. C'est moins parce que ces minorités auraient été la trace fossile des histoires plus anciennes qui avaient précédé sur ces terres l'arrivée de l'islam. C'est plutôt le produit, cette mosaïque de minorités, elle est plutôt, à l'orée du XXe siècle encore, le produit de la remise en jeu de ces histoires plus anciennes, de leur remise en jeu répétée et constante dans le cadre même de la société islamique. Le plus curieux, sans doute, dans cette histoire, est que ces identités sociales étaient, dans certains cas, le produit d'un passé très récent. Je n'en prendrai, je vous rassure, pour ne pas être trop long, qu'un seul exemple, celui des Turcs. Les Turcs, non pas les citoyens de l'actuelle République de Turquie, non pas même les pasteurs de langue turque, qui se sont établis en Anatolie à partir du XIe siècle et qui ont accompagné, accéléré la diffusion de la langue turque en Anatolie. Non, ces pasteurs d'ailleurs que l'on désignait à l'époque avec un certain mépris sous le nom de turcomans. Ce n'est pas à eux que je m'intéresse maintenant. Non, je m'intéresse à ceux que l'on appelait précisément à l'époque des Turcs. Des Turcs qui, depuis le XIIIe siècle, formaient le noyau dur des armées stationnées dans les grandes villes du Proche-Orient, hein, où l'on ne parlait pas le turc, mais l'arabe. Aux yeux de leurs contemporains un peu inquiets mais également heureux de voir ces Turcs assurer la rude tâche de les défendre face aux différentes menaces de l'époque, et il y en avait, aux yeux de leurs contemporains, ces hommes de guerre étaient indubitablement des Turcs, non seulement parce qu'ils parlaient la la langue turque, qu'on ne comprenait pas, hein, j'y insiste, dans ces villes d'Égypte ou de Syrie, mais non seulement parce qu'ils parlaient une langue qu'on ne comprenait pas et qu'on appelait le turc, mais plus fondamentalement encore, parce qu'ils étaient les seuls à porter des armes et les seuls à jouir du privilège de monter à cheval. D'un strict point de vue ethnique, pourtant, les origines de ces « Turcs », entre guillemets, pouvaient être très variables. On y retrouvait, certes, effectivement, des pasteurs turcophones venus de la steppe, mais également des Mongols, mais également des Caucasiens, Tcherkesses ou Géorgiens, voire même des Européens, Serbes, Hongrois, Allemands, capturés sur un lointain champ de bataille, vendus comme esclaves. Car ce qui faisait fondamentalement de ces hommes des Turcs, c'était leur passé d'esclaves, choisis pour leur qualité guerrière, et, outre ce passé d'esclaves, leur éducation, leur formation en langue turque, aux arts de la guerre, dans les casernes du Caire, de Damas ou d'Alep. Si tous n'étaient pas Turcs d'origine, ils étaient tous devenus Turcs de profession. Alors nous voilà arrivés bien loin de nos préoccupations actuelles, j'en conviens. Bien loin de notre identité nationale, bien loin de la place que nous voulons ménager ou que nous refusons de concéder à la religion musulmane que professe une partie de nos concitoyens. L'utilité de l'histoire et des historiens n'est certainement pas d'apporter des réponses toutes faites et toutes prêtes à l'emploi. Si l'histoire et le travail des historiens a une quelconque utilité, ce serait plutôt de déranger certaines de nos certitudes. Des certitudes qui ont été forgées dans des circonstances bien précises et qui se donnent à voir pourtant comme des vérités intemporelles. Alors, je conclurai mon propos simplement, en historien. Si la civilisation de l'islam a, par le passé, présenté une certaine unité, au-delà de l'infinie diversité des situations locales, au-delà surtout de cette extraordinaire richesse de langues, de cultures qui s'y sont retrouvées impliquées. Si cette civilisation a présenté une certaine unité, ce n'est ni à ses origines arabes, ni à ses fondations religieuses musulmanes qu'elle le doit, mais bien plutôt à une culture politique commune. Une culture politique marquée au sceau de l'Empire, une culture impériale, une culture politique de la bigarrure qui incitait le souverain à préférer la différenciation à l'homogénéité. Pour revenir à la France, dans les années 1930, on n'hésitait pas à dire de la France qu'elle était aussi une puissance musulmane. Mais c'était une autre époque où notre pays était encore un empire. Je vous remercie.
C'était l'Agora des Savoirs.
Bien plus nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous. Tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.
L'interrogation de l'être humain.
La création de l'univers.
Le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
L'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Avec quoi est-ce que nous pouvons en connaître? Sinon avec notre propre connaissance.
L'Agora des Savoirs. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec SORAMS, la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, Direct Montpellier Plus et Divergence FM.
Vous venez d'entendre René Otaïek sur le thème « La France et l'autre entre universalisme et différentialisme ». Prochain rendez-vous de l'Agora des Savoirs le mercredi 2 mars à 20h30 salle Rabelais ou en direct sur Divergence FM avec une conférence de Julien Loiseau, la civilisation de l'islam au miroir des identités.